France Musique.
Mon cœur est un violon, sur les traces des grandes violonistes.
Marina Chiche, France Musique.
Bonjour, heureuse de vous retrouver pour notre série estivale sur France Musique autour des grandes violonistes historiques. Après notre escale à Saint-Pétersbourg au début du XXe siècle, dans la classe du grand pédagogue hongrois Leopold Auer, je vous propose de faire un tour à Budapest, chez un autre grand professeur hongrois, Jenő Hubay. Dans sa classe, on voit éclore le talent de nombreux violonistes, dont quatre jeunes femmes fascinantes que j'aimerais vous présenter. Mais tout d'abord, plantons le décor et plongeons dans la Budapest 1900. Nous sommes dans une période exceptionnelle de l'histoire de la Hongrie, une sorte de zénith avant l'effondrement de la Première Guerre mondiale. Budapest est alors un centre intellectuel, une métropole attrayante, une vraie capitale rivale de Vienne dans l'Empire austro-hongrois. On y construit de nouveaux bâtiments somptueux, comme l'Opéra ou encore le Parlement, de nouveaux ponts pour traverser le Danube, et on inaugure le premier métro. Les cafés fleurissent le long de la rue Andrássy. La vie nocturne est agitée. Dans les tavernes à ciel ouvert, on entend les violons de tziganes entre les tintements des couverts. On trinque et on danse. La violoniste hongroise Jeli Darani dans une pièce intitulée « Poème hongrois » de Jenő Hubay. Nous sommes à Budapest à la fin du XIXe siècle. Le peuple hongrois, faisant partie de l'Empire des Habsbourg, affirme sa spécificité par rapport à Vienne. La musique joue un grand rôle dans ce processus identitaire. Elle exprime le tempérament national. C'est une musique qui se nourrit aux sources du populaire, du folklore. Ainsi, elle retranscrit une grande vitalité, avec un sens aigu du rythme et de la danse. Mais c'est aussi une mélancolie qui s'y exprime. Le pessimisme d'un pays qui a pour devise « S'il y a une chose que nous savons bien faire, c'est enterrer nos morts ». Dans cette musique nationale, c'est aussi la langue hongroise qui transparaît, la langue magyare qui est très accentuée, avec un accent tonique sur la première syllabe. Sur France Musique, nous écoutions le violoniste hongrois József Szigeti dans sa transcription d'une chanson populaire hongroise de Béla Bartók, avec le compositeur lui-même au piano en 1940. C'est une manière inimitable de jouer du violon, une manière de parler avec l'archet. En exerçant des pressions avec l'index de la main droite sur la baguette, le violoniste produit des sons comme s'il prononçait des mots. Un vrai parlando que Szigeti a appris justement à Budapest dans la classe du fameux professeur Hubay. Prenons quelques repères. En 1858, Jén Hubay naît à Budapest. Il s'appelle encore Eugen Huba. Il va magyariser son nom à l'âge de 20 ans. Après des débuts de prodige en Hongrie, il part à Berlin, Paris, puis Bruxelles. À 30 ans, il rentre à Budapest. Il fonde alors un quatuor avec le célèbre violoncelliste David Popper et prend la succession de son père comme professeur de violon à l'Académie Franz Liszt à Budapest. Il va y enseigner jusqu'à sa mort en 1937. Hubay a une sacrée allure avec sa barbe bien tenue. C'est un intellectuel aristocrate. Dans sa classe, c'est un défilé de talents auquel il transmet à la fois l'école franco-belge et aussi une manière de jouer héritée de ses racines profondes. C'est une génération dorée de jeunes virtuoses nées dans les années 1890. Pour vous citer quelques noms, József Szigeti, l'enfant prodige Franz van Veksay, dédicataire du concerto de Sibelius à l'âge de 12 ans, un certain Eugène Ormandy, la petite Yeli Darani et sa grande sœur Adrienne, que l'on appelle Adila, ou encore une jeune fille très talentueuse, la jeune Steffi Geier. Elle porte ses cheveux attachés de chaque côté en chignon tressé. Elle a de grands yeux clairs qui en fascinent plus d'un. Une danse slave de Dvorak par Steffi Geier, une des perles de la classe de Yene Hubei du début du siècle. Pendant ce temps-là, dans la classe de composition à l'Académie Franz Liszt, il y a une grande effervescence avec les jeunes Hernán Dohnányi, Zsoltán Kodály et un certain Béla Bartók. En 1906, Bartók a 25 ans. Il entend la jeune Steffi Geier qui n'a que 18 ans. Il en tombe follement amoureux. Les jeunes gens s'écrivent tout au long de l'été suivant, Bartók s'épanche dans ses lettres et il commence à écrire un concerto pour la jeune fille. Un concerto censé la représenter. Dans le premier mouvement, on y entend un thème sublime, une sorte de leitmotiv idéalisé de la jeune femme qu'il aime, une Steffi céleste et introvertie. Mais assez vite, Bartok se rend compte que c'est sans espoir. Impossible pour Steffi, très catholique, d'imaginer un mariage avec lui qui proclame haut et fort son athéisme. Et elle se moque sans doute un peu de lui aussi. Dans le deuxième mouvement, Bartok y dépeint en musique le côté espiègle et ironique de la jeune femme, la Steffi violoniste virtuose qu'il admire. De Steffi Geier pour incarner un idéal féminin inaccessible, ici joué par David Oistrakh. Dépité, Bartok pense détruire son œuvre, mais finalement il envoie le manuscrit à la belle indifférente. Ce concerto de Bartok ne sera créé que de manière posthume. Voilà comment la violoniste hongroise Steffi Geier est entrée dans la postérité. Pourtant, elle fut avant tout une remarquable violoniste acclamée de son vivant. Elle fit une belle carrière, enregistra des disques et enseigna au conservatoire de Zurich dès 1923. Parmi ses élèves d'ailleurs, Aida Stucki, la violoniste suisse que je vous faisais entendre dans le premier épisode, la professeure d'Anne-Sophie Mutter. Cet amour non réciproque, on l'a souvent présenté comme un drame pour Bartok. Mais bon, apparemment, il tombait assez vite amoureux, et les jeunes violonistes talentueuses ne le laissaient pas indifférent. Déjà, quelques années auparavant, il avait courtisé Adila, l'aînée des sœurs d'Arany. Bella fréquente alors la maison d'Arany à Budapest. Il donne des leçons de piano à la sœur cadette, qui s'appelle Hortense. Il la surnomme Titi. Et puis, il y a aussi la Benjamin, la petite Yeli. Mais elle ne l'intéresse pas beaucoup, elle est bien jeune. Pour courtiser Adila un été, il lui envoie plus de 70 cartes postales. Plutôt que de lui écrire des textes, il lui envoie des citations ou des transcriptions de thèmes musicaux extraits de poèmes symphoniques de Richard Strauss. Romantique. Cela n'aboutira pas. Adila se mariera avec un avocat londonien et la famille d'Arany s'installe à Londres. Dans les années 20, Bartok est de passage. Il entend alors Yeli, qui est devenue une extraordinaire violoniste et une jeune femme fascinante. Elle a un tempérament de feu. Thank you. Sur France Musique, une danse hongroise de Johannes Brahms par la violoniste hongroise Jelit Darani, une élève du professeur Jenő Hubay. Jelit devient une inspiration pour Bartók. Il compose à son intention sa première et sa deuxième sonate pour violon et piano qu'ils créent ensemble à Londres en 1922 et en 1923. Lors de la création, le compositeur Maurice Ravel est présent. Il est subjugué par Jelit et lui demande de jouer de la musique hongroise et tzigane pour lui jusqu'à 5 heures du matin. C'est ainsi qu'il écrira pour elle sa rhapsodie pour violon et orchestre intitulée Tzigane. Jelit inspire également des compositeurs anglais comme Ralph Vaughan Williams ou Gustav Holst. Il se dit même que Sir Edward Elgar, à la fin de sa vie, en pensa sérieusement pour la jeune violoniste. Jelit a une image de femme libre, magnétique. Elle n'est pas mariée. En plus, avec sa sœur Adila, elle anime de célèbres séances de spiritisme, dont l'une fameuse mène à la redécouverte du manuscrit du concerto pour violon de Schumann. Jelit et Adila seraient rentrés en communication avec l'esprit de leur grand-oncle, le violoniste Joseph Joachim. Jelit donnera la première londonienne du concerto de Schumann. Mais au-delà d'être une muse et une femme fascinante, Jelit est une musicienne accomplie. À Londres, elle consacre une grande part de son activité à la musique de chambre. En quatuor avec sa sœur, mais aussi avec la pianiste anglaise Dame Mira Hess, elle joue aussi en trio. Par exemple, avec le violoncelliste catalan Gaspar Casado.
Thank you.
Le deuxième mouvement du deuxième trio de Johannes Brahms en Do majeur avec la pianiste britannique Dame Mira S, le violoncelliste catalan Gaspar Casado et la violoniste hongroise Yeli Dárani en 1935. C'est une musique que Yeli joue comme on parle sa langue maternelle. Imaginez un peu la filiation. Yeli est la petite nièce de Joseph Joachim et son professeur Yeno Hubai avait créé le troisième trio de Brahms avec le violoncelliste David Popper et le compositeur au piano.
Mon cœur est un violon.
Marina Schiff, France Musique.
Revenons à notre pépinière de Budapest, la classe de Yeno Hubai. Nous sommes maintenant dans les années 30. C'est un peu la dernière fournée de la classe d'Hubai. Les élèves sont nés après la Première Guerre mondiale. À Budapest, c'est un monde d'après. Rien n'est plus pareil et les nuages s'accumulent et ne présagent rien de bon pour la suite du XXe siècle. En 1932, le monde du violon se réunit à Vienne pour un des premiers grands concours internationaux. Au jury, tout le monde est là. Enesco, Kubelik, Rosé, Busch, Flech, Huberman, Kulmkampf et bien sûr, Yeno Hubai. La liste est impressionnante. Lors du concours, 300 concurrents s'affrontent. Le niveau est exceptionnel. Difficile de départager tous ces talents d'âges différents. Certains ont une dizaine d'années, d'autres, beaucoup plus mûrs, approchent la trentaine. Les délibérations sont rudes. Chaque professeur veut voir ses jeunes poulains récompensés. Finalement, tous les prix sont donnés ex aequo. Un des premiers prix va à l'italienne Gioconda De Vitto, âgée de 25 ans. Mais deux jeunes filles de 12 ans font forte impression sur le jury. Une française et une italienne. La petite Ginette Neveu tape dans l'œil de Karl Flech, un autre grand professeur hongrois, décidément entre Auer et Hubai. Mais c'est la petite Vanda Luzzatto que Yeno Hubai repère immédiatement. Il l'invite aussitôt à étudier avec lui à Budapest. Au concert de gala, elle joue le premier mouvement du concerto de Brahms. Elle a des facilités étonnantes sur le violon et un vrai tempérament.
Thank you.
Sur France Musique, nous écoutions la violoniste italienne Wanda Luzzatto dans le Perpetuum Mobile de Franz Ries. Après l'avoir repérée au concours de Vienne en 1932, le professeur Jenő Hubay invite la jeune Wanda à Budapest et la fait travailler dur. Même si sa carrière est déjà lancée, il n'hésite pas à lui faire reprendre des aspects techniques à zéro. Il lui fait faire des études, Kreutzer et compagnie, tout y passe. Ce dont elle lui sera reconnaissante tout au long de sa carrière. 2 ans plus tard, elle joue sous sa direction le concerto de Brahms à Budapest, elle a 14 ans, et commence à tourner en Europe. Elle devient une musicienne accomplie, enregistrée par les radios européennes.
Il nostro concerto da camera prosegue con Robert Schumann, Zweite grosse sonate in re minore per violino e pianoforte. Bevete. Thank you.
La violoniste italienne Wanda Luzzatto dans le final de la deuxième sonate de Robert Schumann avec Antonio Beltrami au piano. C'est un enregistrement de la radio italienne en mars 1962. En 1948, Wanda n'a pas 30 ans. Elle donne la première italienne du concerto de Cacciatorian à la Scala de Milan. C'est un concert événement qui booste sa carrière. Elle joue partout dans le monde dans les années 50 et 60. À la fin des années 70, elle a une cinquantaine d'années. Elle décide de se retirer de la scène au sommet de son art. Il est étonnant qu'elle soit tombée dans l'oubli. Son professeur, Jeno Hubay, disait d'elle « Après Franz van Wexey, aucun de mes élèves ne fut plus talentueux que Wanda Luzzatto. » Malheureusement, elle ne fit aucun enregistrement commercial. À l'inverse, c'est grâce à des enregistrements remarquables que notre dernière grande violoniste du jour, Johanna Marzi, est restée dans les mémoires. Johanna Marzi est née en 1924 en Transylvanie, à Timișoara. Elle n'a pas 10 ans quand elle étudie avec Hubay, c'est littéralement une de ses dernières élèves. Elle commence alors une carrière de prodige et c'est en 1947, avec sa victoire au concours de Genève, qu'elle est définitivement lancée. En 1954, elle grave un enregistrement de légende des sonates et partitas de Jean-Sébastien Bach. Sur France Musique, nous écoutions le presto de la première sonate en sol mineur pour violon seul de Jean-Sébastien Bach dans un enregistrement légendaire de la violoniste hongroise Johanna Marzi. Ce qui frappe, c'est la grande pureté de son jeu qui fera dire au pianiste canadien Glenn Gould qu'elle est sans doute une des violonistes les plus sous-estimées. Mais il faut dire qu'elle rencontra deux obstacles majeurs dans sa carrière. Le premier, c'est une histoire fâcheuse avec le fameux producteur de disques Walter Legg. Walter Legg fit la carrière de Karajan et deviendra en 1953 le mari et le manager d'Elisabeth Schwarzkopf. De manière pudique, on lit souvent que suite à des démêlés avec Legg, Johanna Marzi quitte la maison de disques EMI. En fait, il lui aurait fait des avances à maintes reprises. Le deuxième obstacle, c'est en 1959. L'orchestre philharmonique tchèque refuse de jouer avec elle lors du festival d'Edinburgh. Les musiciens l'accusent d'avoir soutenu le régime de Miklos Horthy. Mais il s'avère que Johann Amartsi était interné en Autriche lors de la dictature fasciste de 1944 à 1945. Pourtant, elle laisse sans doute l'un des tout meilleurs enregistrements du concerto de Dvorak.
Thank you.
Sur France Musique, une version de première classe du final du concerto de Dvorak par la violoniste hongroise Johanna Marczi avec l'orchestre de la radio berlinoise dirigé par Ferenc Fricsay en 1953. À l'instar de Johanna Marczi, nos violonistes ne sont pas épargnés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Par exemple, l'italienne Vanda Luzzatto, coincée à Budapest, se cache dans une cave pendant 2 mois. Une autre élève de Hubei, Ilona Feher, est internée avec sa fille dans un camp de concentration dont elle réussit à s'échapper par miracle. Pendant cette guerre, plusieurs grandes violonistes sont prises dans la tourmente. Des destins incroyables dont je vous parlerai dans le prochain numéro. Merci à l'équipe de l'émission, Françoise Cordet, Valentin Carpentier, Stéphane Poitevin. Cet épisode est disponible à la réécoute quand vous le souhaitez sur le site de France Musique. Je vous dis à dimanche prochain à 17h.
Est un violon.
À réécouter sur francemusique.fr.